voyage tout le monde, les amis. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique en direct de Washington DC. Nous découlons aujourd'hui, moi de la femme oblige, avec une invitée. C'est Madame Béatrice Kapinga-Bachal qui sera mon invitée pour parler de sa fondation et de tout ce qu'ils font, hein, parce qu'ils ont comme objectif d'aider les femmes et les enfants en leur fournissant de la nourriture, un abri, de vêtements et de soins de santé. On le fera bien sûr dans l'ambiance de la country music, n'allez nulle part ailleurs. On décolle, c'est tout de suite. De la femme est spéciale, en tout cas, même si elles ne veulent pas nous appeler, nous on va les appeler. On aura Madame Bachali ce soir avec nous, bien sûr, en direct dans RM Show pour nous parler de sa fondation, mais aussi nous parler de ce mois spécial de la femme en général. On est ensemble, les amis, en écoutant de la bonne musique. Oui, Wrong Baby Wrong.
Wrong Baby Wrong.
Très bien que ce mois, c'est le mois international des femmes, hein, et donc on va célébrer le 8 mars comme d'habitude, le 8 mars prochain. Alors vous allez tous vous joindre à nous, surtout dans nos émissions RM Show et vous et nous, pour en parler, parce que le monde entier va bien sûr se réunir pour en parler. Et le grand thème d'ailleurs, c'est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Et bien sûr, l'ONU Femmes lance aussi un appel à tout le monde qui nous capte. Et bien sûr, pourquoi pas avoir des invités femmes cette semaine. Nous avons bien sûr le privilège et l'opportunité de recevoir Madame Kapinga Bachale, qui veut bien qu'on dise son nom d'ailleurs au complet. Madame Kapinga, d'abord je dis merci de nous accorder ce temps. Comment vous allez, hein? Comment vous portez?
Ça va, monsieur Roger Montou, ça va. Et comment vous allez vous-même?
Mais moi, ça va très bien aussi. C'est un grand plaisir, en tout cas, aussi, de vous avoir. Mais dites-nous d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette journée ou ce mois de la femme?
Le mois de la femme est un mois qui commémore évidemment la femme comme le thème le dit. Mais je pense qu'on devrait plutôt célébrer la femme chaque mois. On ne devrait pas attendre un seul mois pour dire que c'est le mois de la femme. C'est un mois qui rappelle que la femme est mère, la femme est responsable, la femme est leader dans nos familles, dans nos pays et aussi dans le monde entier. Il y a un adage qui dit « L'homme fait les décisions, mais la femme les met en pratique. » Donc, la femme est le moteur de beaucoup de choses. Donc, ce mois est un mois où on se rappelle que nous sommes le moteur, nous sommes la vie.
Exactement. Et alors aujourd'hui parlons aussi, parce que chaque année c'est bien ce que vous êtes en train d'éditer, hein, vous venez de dire en ce moment, mais parlons un peu de chaque année, on parle toujours de la même chose, on parle toujours de cette inégalité ou inégalité, de tout ce qui se passe autour de la femme. Pensez-vous, Madame Bachalet, qu'il y a un certain progrès aujourd'hui dans ce domaine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, qui disent « Mais Roger, bah oui, on en parle, mais effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup plus de progrès dans ce sens. » Qu'en pensez-vous, hein?
Je pense qu'il y a quand même un progrès,
oui,
bien que minime, mais je pense qu'il y a un progrès parce que nous pouvons voir dans plusieurs institutions, les femmes sont en action et là, les femmes occupent des positions de leadership et de power. Donc, les femmes, il y a une évolution.
Il y a une évolution et d'ailleurs, en parlant de cette évolution, on va aussi parler de ce que l'évolution, c'est aussi ce que vous faites à travers votre fondation. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on vous a aussi invité pour nous parler un peu plus de votre fondation, parce que vous militer pour cette femme qui continue à traverser des moments difficiles dans ce monde. Dites-nous un peu, et à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment dans votre fondation, c'est quoi exactement que vous faites?
Pour comprendre ce que nous faisons, d'abord, je pense qu'il nous faut connaître ce qu'est notre fondation et l'historique de notre fondation. Donc, l'historique de cette fondation, c'est l'histoire de Kapinga Bachala elle-même, c'est mon histoire.
Oui.
J'ai été veuve, j'ai été mère des orphelins, et c'est ça le début de tout. Alors, voir les injustices que vivent la femme africaine, la femme même espagnole de l'Afrique, l'Amérique latine, les injustices après le décès d'un mari, les manques d'appui du pays même, de la gouvernance envers cette femme-là qui a perdu un homme sur lequel peut-être elle s'appuyait. Et c'est souvent un malheur qui s'ensuit. Alors, après avoir vécu cela, la belle famille qui te prend les choses, les gens qui sont de la belle famille, qui pensent qu'ils ont le droit au bien de leur frère, malgré si le frère avait laissé les mots ou les testaments disant que ces choses appartiennent à la femme.
Légalement.
Et surtout que vous êtes loin du pays et la belle famille s'impose et vous arrache les choses. Tout ça englobé m'a permis de comprendre qu'il faut vraiment militer pour la femme.
De comprendre cette femme-là qui souffre quand elle a perdu son mari.
Quand elle a perdu son mari, militer pour cette femme-là qui reste avec les enfants, militer pour faire comprendre à la famille que quand on construit, ce n'est pas seulement pour la famille, mais on construit d'abord pour son épouse et ses enfants. Alors, moi-même ayant vécu cette situation, et autour de moi, j'ai eu quand même l'appui de ma famille, l'appui de l'Église, que je souligne, catholique surtout, entre guillemets, parce que les prêtres ont pensé à moi, les gens de la paroisse pensaient à moi, mes amis proches ont pensé à moi et tout. Donc, je me suis dit, un jour, je dois aussi remettre à la communauté. Un jour, quand je me remets sur pied, je dois aussi aider les autres. Donc, c'est ce que Kapi Bash est en train de faire aujourd'hui. Quand je suis allée à l'école, je suis devenue infirmière dans ce pays.
Oui.
La première chose que je me suis dit, je suis devenue infirmière en partie parce que les gens m'ont appuyé, mes enfants, ma famille et même le gouvernement américain, parce que j'ai pris des crédits pour payer mes études, j'ai eu des bourses, donc je dois aider les autres. Je dois aider la famille, aider les femmes, aider les enfants chez nous et partout dans le monde. Avec le peu que je peux avoir, je dois le faire. Donc c'était un assignment, un objectif, un goal, un rêve que je suis en train de réaliser.
Un rêve que vous êtes en train de réaliser et on le sent d'ailleurs à travers votre voix, que vous êtes tellement passionné de le faire. Et depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qu'avez-vous fait concrètement?
Depuis le début de Kapi Bash Foundation, nous sommes allés à beaucoup d'endroits, nous avons fait beaucoup. À Kinshasa, nous avons aidé des orphelins dans d'autres organisations. Nous avons aidé à donner des matériels scolaires parce que l'éducation est une de nos clés. Nous avons aidé certaines autres organisations qui ne sont pas les miens, deux ou trois à Kinshasa même, à Massina, à Cité Maman Mobutu, vers les Kinkole. Ça, c'est le début. Nous avons fait des consultations d'enfants gratuits avec mon mari, mon époux actuel, parce que je me suis remariée 10 ans après mon veuvage, avec le docteur Luc Kamanga, qui est directeur à PNLS, le programme national de lutte contre le sida. Il est le directeur national de PNLS.
Ouais.
Alors, avec lui et une équipe d'autres médecins et infirmières, nous avons fait des visites gratuites dans les zones périphériques de Kinshasa, à Kinkole. Tous les 3 mois, nous avions une routine où nous allions là-bas donner des médicaments, faire des consultations, aider les enfants malades jusqu'à l'âge de 18 ans. Et si ce sont des cas qui demandaient de se retrouver dans un hôpital, on les orientait vers chez Mutombo Dikembe ou on les orientait vers Ngaliema où mon mari lui-même prête. Évidemment, on aidait avec nos fonds pour aider ces femmes-là et ces enfants-là. Nous avons aidé à payer des hôpitaux, des salles d'accouchement pour les femmes qui étaient emprisonnées à l'hôpital.
Oui.
Après les accouchements, vous savez comment ça se fait, hospital hostage,
oui,
pour les femmes qui ont mis au monde et n'ont pas les moyens de payer.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette pratique-là? Parce qu'on en parle aussi chaque année, où ces femmes sont prisonnières aujourd'hui, et il faut que quelqu'un comme Béatrice Kapinga-Bachal vienne pour les libérer, et il faut que quelqu'un qui s'est fait un peu un nom ou un peu d'argent aussi, qui vient pour les libérer. Qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, qui militez aussi pour ces femmes-là? Qu'en pensez-vous?
En tout cas, à mon propre point de vue, je pense que ce n'est pas right. Ce n'est pas vraiment la décision à faire juste.
Oui.
Mais il y a aussi ce côté-là où les hôpitaux doivent fonctionner. Sinon, toutes les femmes iraient là-bas maintenant mettre au monde et après ne payent pas. Mais je pense que cas par cas, ils peuvent examiner. Et peut-être l'État peut créer un garde-fou, mettre un système qui aide dans certains hôpitaux des femmes qui n'ont pas les moyens, les femmes qui sont pauvres, entre guillemets, qui n'ont pas les moyens d'aller dans certains centres que le gouvernement ou le ministère de la Santé peut mettre un fonds quelconque pour couvrir certains des frais pour ce genre de situation, au lieu de les garder emprisonnés, parce que nous avons trouvé des gens qui sont à l'hôpital 5 mois, 6 mois, 3 mois, 1 mois, même le bébé commence à marcher à l'hôpital, ça c'est ridicule, parce que finalement ils sont supposés être emprisonnés, mais la famille leur amène à manger là-bas.
Oui, oui.
Finalement, peut-être même qu'on les aide pour ne pas avoir le stress à la maison, d'être même protégés à l'hôpital. Donc maintenant, qui gagne, qui perd quand un enfant commence à marcher à l'hôpital? Donc tout ça, il faut que les propriétaires d'hôpitaux et le ministère de la Santé puisse aussi le revoir.
Ouais, de revoir, et ça c'est sûr. Et vous, personnellement, dans votre domaine, revenons un peu sur, pour parler un peu de votre fondation, est-ce que vous arrivez à trouver de l'aide qu'il vous faut pour continuer à aider ces femmes-là? Ça serait une des questions. Et aussi, est-ce que vous pensez aider les femmes seulement dans un coin spécifique de la RDC, ou vous pensez peut-être dans plusieurs coins de la RDC, ou peut-être même en Afrique? Je ne sais pas. Quelles sont vos ambitions derrière cette ONG?
L'ambition, je suis très ambitieuse. Je ne vois jamais petit. Je ne vois jamais petit. Et je peux dire, même avec des petits moyens, on peut faire grand.
Oui.
Et j'ai la philosophie de ce que on commence à construire avec une pierre, on en donne la deuxième, la troisième, la quatrième, et on finit par faire la maison.
Exactement.
Donc, je peux commencer dans un coin, mais ça ne me limite pas et je ne me limite pas à ce coin-là. C'est-à-dire, là, par exemple, nous avons agi à Kinshasa, nous avons déjà agi dans le Kasaï.
Oui.
Peut-être n'a pas fait trop de bruit parce que là, ce n'était pas des grandes actions, mais nous le faisons doucement.
Oui.
Nous avons agi en Afrique du Sud avec les enfants positifs de HIV et SIDA. Vous savez, là-bas, la population est à, je pense, la dernière fois que j'avais checké en 2016, quand nous sommes allés là-bas, c'était 80%, si je ne m'abuse, de la population sud-africaine noire est positif de HIV. Alors, donc nous sommes allés dans un centre où tous les enfants là-bas étaient positifs de HIV et tout, apportaient de l'aide. Ici aux États-Unis, nous sommes dans les hôpitaux, nous avons déjà fait des choses aussi où on donne à manger aux hospitalisés et tout.
Ouais.
Et dans les écoles ici, nous allons aussi aider les enfants dans les écoles de minorités où ils ont aussi des problèmes, où les enfants se sentent rejetés ou se sentent frustrés par rapport à leur race ou par rapport à leurs moyens. Donc je vais empower les enfants, parler avec eux, leur faire comprendre que aujourd'hui vous êtes enfant, mais demain vous pouvez être des leaders de ce pays. Nous allons aider aussi des homeless dans les quartiers et tout à Dallas. Là nous sommes allés même avec une autre organisation aussi, partager la nourriture aux pauvres, et c'est ça. Donc nous sommes un peu partout, et là notre grande base c'est Goma et Kinshasa pour l'instant et tout, et nous avons des appels partout, même de l'Inde. Je reçois des lettres de l'Inde.
Wow.
Mais je ne peux pas aller en Inde aider quand je n'ai pas encore fini de faire ce que je fais à Kinshasa. Je leur promets, ou je fais juste un petit geste comme ça et j'oublie. Et comme ça, ouais. Alors, parce que je ne vais pas dire, bon, je vais aller maintenant en Inde, pour le moment, c'est impossible. C'est ça. Nous sommes partout, on ne se limite pas, mais nous ne recevons pas, pour revenir à votre question, de l'aide qu'il faut.
Oui,
que ce soit de gens de notre gouvernement, que ce soit gouvernement américain ou gouvernement congolais. Non.
Oui.
Je reçois de l'aide des enfants, mes propres enfants, des amis de mes enfants qui comprennent la chose, qui organisent même des restaurants de cœur. Ils vont dans un restaurant organiser des dîners et ils récupèrent un pourcentage sur chaque client dans ce restaurant-là qu'ils attribuent à la fondation Capibache. Nous avons l'aide de ma famille, mon mari, moi-même. Nous avons l'aide de quelques amis que la chose touche, et de l'aide aussi de prière, qui est la chose la plus importante pour le courage et la force. Mais l'aide financière venant de chez nous, non. J'ai essayé de toucher quelques ministres de chez nous. Oh, forget about it. Il ne faut même pas. J'ai essayé de toucher quelques conseillers de notre président. Forget about it. Et j'étais certain, non, que j'ai essayé aussi de toucher même au téléphone. Forget about it. Donc, on travaille de nos propres forces. Moi-même, je suis infirmière. Je peux te dire, je fais de double shift parce que j'ai une vision, je vais aider les autres. Et ça ne me dérange pas de donner. Ça ne me dérange en rien. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a appelé de France pour savoir qu'est-ce que je gagne dans tout ça. Je dis, je gagne mon bien-être. Je gagne ce que peut-être certains n'ont pas. quand je dors, je sais que j'ai nourri un enfant pauvre quelque part, qui ses parents sont partis ou ses parents n'ont pas des moyens, je remercie Dieu pour ça. Parce que je pense que notre devoir sur cette terre n'est pas seulement d'avoir pour nous-mêmes, mais quand tu peux avoir pour toi-même, pense aux autres. Aujourd'hui, il y a une blanche qui vient de me demander de l'aide, elle est veuve à la station, elle a suivi mon fils. Mon fils est revenu vite à la voiture. « Mom, she needs money, she needs something. Can I have money ?» J'ai donné à mon fils a donné. Et la femme est venue encore vers moi pour dire merci, et j'ai pris encore de l'argent dans mon sac, j'ai donné à la femme. Donc c'est des gestes, je ne le fais pas parce que j'aimerais qu'on voie que je fais, mais je le fais parce que c'est moi-même. Ma vie n'a de sens que quand je sais que j'ai fait du bien à quelqu'un. Je n'aime pas faire le mal. Alors, c'est quelque chose qui est en moi. Je ne sais pas, je tiens ça de mon père, je tiens ça de ma grand-mère, la mère de ma mère. Ma grand-mère était veuve, mais elle avait dans sa maison des enfants, même des gens qui étaient encore en couple, qu'elle nourrissait, dont elle s'occupait. Aujourd'hui même, il y en a qui sont conseillers chez Fatih, mais qui n'ont même pas donné $50 de contribution à la mort de ma mère, ma grand-mère. Donc, pour te dire, donc c'est quelque chose qui est dans notre sang. Ça me fait du bien de partager, ça me fait du bien de donner. Et je ne regarde pas en retour. Ceux qui vont retourner. Sinon, je regarde à Dieu seul. Parce que devant Dieu, après, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous avez fait sur la terre? Avez-vous vêtu un homeless? Avez-vous donné à manger à celui qui en manque? C'est nos œuvres qui témoigneront devant nous. Donc, c'est ça la beauté de la vie même. Quand tu donnes à l'autre et tout, ne pas aller dépenser dans des choses vulgaires et impossibles, quoi.
Les dernières informations culturelles avec votre commandant de bord, Roger Moutou, seulement ici, sur RMJO, sur VOA, Afrique.
Ça, c'est sur Moi de la Femme, mon invité aujourd'hui, Béatrice Kapinga Bachalé. Très bien parlé, je vous ai entendu, j'ai entendu ce que vous venez de dire, mais je sens aussi que vous avez des difficultés Oui, vous avez cette volonté-là d'aider ces femmes-là, hein, ou cette femme-là qui nous écoute ce soir, mais vous avez des difficultés pour les aider parce que vous faites ça de vos propres fonds, de vos propres travail, comme vous venez de dire, vous travaillez 2 à 3 shifts. Alors, pour ceux-là qui nous écoutent, qui ne comprennent peut-être pas, quelles sont les réelles difficultés que Madame Béatrice Kapinga-Bachalé rencontre en cherchant à aider les autres?
Oui, les difficultés les plus grandes sont financières.
Oui.
Mais on arrive toujours, quelquefois, à les surmonter. Financières pour réaliser, à aider le grand nombre que nous souhaiterons. Parce que le nombre que nous... Que nous aidons aujourd'hui n'est pas aussi grand. Mais si nous voulons atteindre un certain niveau, il nous faut un plus grand budget, un plus grand nombre d'aides. Donc c'est là où nous frappons chez les bailleurs de fonds, là où nous frappons auprès de nos gouvernements, auprès des gens qui ont le paquet dans la poche. Parce que dis-moi, pourquoi tu garderais 5 millions pour toi-même alors qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui manque 10 dollars?
Très bonne
question.
Parce que
tu ne feras jamais 5 millions directement toi-même. Ça, ce n'est qu'un exemple que je donne. OK? Ouais. Donc, alors que dans les 5 millions, tu peux te dire, OK, 2 millions 500, allons aider des gens dans tel coin, nourrissons, montrons les gens, parce que moi, mon but n'est pas seulement de donner, mais d'apprendre aussi aux gens des métiers.
Ah ben ça c'était une de mes questions, si j'allais dire voilà. Ouais. Est-ce que vous vous arrêtez parce qu'on connaît tous l'adage donne-moi un poisson, voilà. Est-ce que vous aidez, est-ce que vous leur montrez aussi parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat de la femme.
Tout
parce qu'en montrant un travail et en les aidant à travailler, vous allez aider pendant longtemps que juste donner un petit poisson.
Tout à fait. C'est ça que nous faisons. Donc, nous n'aidons pas seulement parce que nous voulons donner à manger, mais nous aidons aussi aux gens dans l'entrepreneuriat. Nous avons un groupe de femmes que nous appelons des mamans Makala, à qui nous avons donné des finances pour vendre les charbons. Après avoir vendu les charbons, ils reviennent et remettent le capital afin qu'on puisse aider un autre groupe de mamans. Et eux, après avoir pendant un temps fait des bénéfices, ce bénéfice tourne en leur propre capital et ils continuent avec ce capital-là par eux-mêmes, par elles-mêmes, et nous remettent l'autre capital que nous les avions prêté et nous allons donner encore à un autre groupe de mamans.
Vous écoutez RM Show avec Roger Mundou.
White Liar. Avec cette chanson, nous allons prendre un petit repos avant de redécoller en deuxième partie, toujours avec mon invité spécial qui a beaucoup à dire. Une femme exceptionnelle. C'est le mois de la femme. Nous célébrons la femme. Nous célébrons les femmes comme, qui prennent des initiatives aussi, comme Madame Kapinga Bachalé. Restez avec nous, n'allez nulle part ailleurs. RM Show continue avec beaucoup plus des découvertes. Jobless. Peace out.